RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy.
Bonjour Billy.
Vous êtes le directeur adjoint de Metron et vous nous accueillez comme à chaque fois dans vos locaux et à vos côtés. Nous sommes toujours aussi en compagnie de Jean-Christophe Gianesini, directeur associé d'Ecodev. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Billy.
Aujourd'hui, je vous propose de recevoir Charlotte Gosset. Elle est responsable de la croissance et du développement durable de Futurprendre. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes née à Nantes.
Oui.
Oui. Et dès l'âge de 13 ans, ça c'est incroyable, en allant avec votre oncle dans son agence de design, vous avez su que c'était ce que vous vouliez faire. Et en plus, on peut le dire, vous aviez un joli coup de crayon.
Oui, pas assez bon néanmoins pour devenir designer, mais j'ai effectivement eu un grand coup de cœur pour ce métier. J'ai découvert dans des open space des tas de créatifs qui faisaient plein de dessins et plein de couleurs avec les Mac de l'époque qui étaient encore ces grosses boîtes colorées transparentes. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire.
Alors, avant, là vous aviez 13 ans, avant d'être dans une boîte comme ça, il faut faire des études. Ces études, vous les avez faites, un bac économique et un master marketing dans une école supérieure de commerce. Alors, votre premier job, c'était chez Team Creative. C'était cette boîte de votre oncle ou pas du tout?
C'était la même.
C'était la même. Donc vous êtes arrivé des années après à l'endroit où vous vouliez être.
Exactement. J'ai eu beaucoup de chance.
Combien de temps ça a duré?
Ça a duré 12 ans. Mm-hmm. Je suis restée 12 ans chez Team Creative. J'ai commencé en tant que consultante assez vite à l'international. Et puis après, je suis devenue directrice de clientèle. Et je m'occupais notamment de grandes marques de la grande consommation, comme Danone, Lindt.
La food, quoi, comme voilà. On dit.
La food.
La food. 12 ans, et il y a un autre événement dans votre vie, vous avez un deuxième enfant. Et là, vous commencez à réfléchir et vous dites, j'ai envie d'autre chose. Mais vous aviez envie de quoi?
Bon, j'avais envie de nouveaux challenges et puis de changement, je crois, tout simplement. J'adorais mon agence, j'adorais Team Creative. Mais quand Futurprendre m'a proposé de les rejoindre avec le défi de développer le pôle grande conso, j'ai pas hésité longtemps et je m'en suis occupée avec l'équipe pendant 4 ans. Et puis plus récemment, l'agence m'a accompagnée aussi dans mon évolution puisque je souhaitais me consacrer davantage à des missions de RSE, liées à la RSE, notamment auprès de nos clients, mais aussi en interne. Et du coup, m'a accompagnée dans mon changement de job. Et voilà, depuis, je crois, maintenant 6 mois, je suis en charge du développement de l'agence, donc de sa croissance, mais de sa croissance durable, et donc de tout ce qui a trait à la RSE. Donc, je collabore de très près avec notre responsable des ressources humaines, avec qui on forme un duo pour piloter, on va dire, toutes ces initiatives.
Alors, en quelques phrases, vous nous présentez Futurprendre?
Futurprendre, c'est une agence de branding et de design qui est née à New York il y a environ 30 ans. Aujourd'hui, le siège social est à Londres et Paris est un des grands bureaux qui composent le réseau d'agences que nous sommes. Et on a une activité assez variée, à la fois sur des missions de stratégie de marque, mais aussi de design, notamment graphique, mais aussi de points de vente, de retail, mm-hmm. de 3D. Voilà. Et puis, on a effectivement des agences un peu partout dans le monde, et cette culture et ce goût de l'international. Et puis, nos clients sont assez variés. La diversité, c'est vraiment la grande valeur de toute façon de l'agence, que ce soit en interne dans les profils qu'on recrute, mais aussi de nos clients, puisqu'on travaille à la fois pour l'industrie du luxe, beaucoup de marques corporate et aussi donc des marques de grande consommation.
Absolument. Alors encore un dernier mot avant de vous livrer aux questions de Tanguy et Jean-Christophe. Ce nouveau poste de RSE que vous venez de prendre assez récemment, comment il a été accueilli en interne par les salariés?
Bah, assez naturellement, parce qu'en réalité, ça faisait déjà 3 ans. Que j'avais, avec le soutien de mon directeur général, mis en place tout un processus pour accompagner l'agence dans sa transition. Mmh. RSE, et j'avais piloté notamment donc avec Marie-Caroline, mon acolyte, tout le processus de labellisation Lucie. On a rejoint la communauté Lucie en 2020 et on a été labellisé Lucie 26000 en fin 2021. Donc c'est un label qui est adossé à la norme ISO 26000 qui est référente en matière de RSE pour les entreprises. Voilà, et comme on avait, et ça j'étais encore directrice commerciale de l'agence quand je menais aussi ces missions en parallèle, donc voilà, assez naturellement, ma transition n'a, je dirais, étonné personne.
Allez, nos experts et leurs questions, on commence avec vous Tanguy.
Oui, bonjour Charlotte. Futur, quand on a démarré Métron il y a 10 ans, on parlait de sobriété énergétique, même si le terme n'existait pas encore. En tout cas, c'était dans la vision de l'entreprise. Si aujourd'hui, vous deviez vous positionner sur le futur dans 5 ans, au niveau de la RSE, quelles sont les grandes évolutions que vous imaginez, que vous drivez vis-à-vis de vos clients pour dire, tiens, c'est là qu'on devrait être, que vous devriez être dans 5 ans, et c'est le message qu'on veut faire passer?
Je pense que la RSE aujourd'hui est encore assez, en tout cas elle est comprise de manière très différente selon les gens, et elle n'a pas le même niveau de maturité en fonction des entreprises. Mais ce en quoi je crois fortement, c'est que demain, la RSE va emprunter l'ensemble en fait des départements des entreprises. Ce sera plus une personne ou un département dans un coin qui a ses propres missions. Je pense que ce seront désormais tous les leaders d'entreprise, tous les managers, tous les salariés qui auront une part de responsabilité pour faire en sorte que l'entreprise agisse de manière responsable. Donc voilà, moi je crois que ça va tout simplement rejaillir à tous les niveaux et ça permettra d'aller beaucoup plus vite.
Et vous avez parlé de diversité, j'entends qu'il y a des bureaux un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, en 2022, vous sentez une différence de perception, de maturité, selon les régions ?
Tout à fait. J'ai découvert à peu près il y a 5 ans que notre bureau de Sao Paulo, par exemple, était extrêmement en avance sur ces sujets-là. Je crois que le Brésil, c'est un pays avec vraiment 2 visages, mais qui est très intéressant parce que bon, c'est quand même leur forêt qui brûle. Et donc, il y a un niveau de conscience au Brésil qui est très, très haut pour une grande partie de la population. Et de fait, beaucoup de leurs entreprises sont déjà bicorp. Il y a une vraie maturité sur ces sujets-là dans le monde de l'entreprise. Et notre agence au Brésil est très avancée en matière de RSE.
Mmh. Jean-Christophe ?
Oui, bonjour Charlotte. Bonjour. Du coup, moi j'avais une première question par rapport à l'activité vraiment de Future Brand. L'agence est à taille humaine et pour moi le gros de votre responsabilité est plutôt justement dans l'accompagnement de vos clients, dans votre chaîne de valeur, dans votre cœur de métier. Aujourd'hui, quel est le ratio de clients qui vous questionnent justement sur un positionnement plus green de leur marque par rapport à un positionnement traditionnel ?
100%.
200%.
100% de nos marques nous demandent ça. Elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité. Aujourd'hui, j'ai regardé justement il y a quelques jours. Donc, je peux vous dire, on a plus de 30% des marques pour lesquelles on travaille qui sont engagées. Et quand je dis engagées, c'est des grandes bicorps comme Nespresso ou Bledina du groupe Danone, donc des bicorps assez quand même leaders dans le monde. Ça peut être aussi des startups comme Poppy qu'on accompagne depuis quelques années, des associations. On travaille avec Bibliothèques sans frontières, mais aussi des marques du groupe LVMH. On vient de lancer la marque Galoupet, par exemple, qui est un business model extrêmement vertueux de A à Z. Donc voilà, c'est 100% des sujets implique la dimension RSE. Il y en a, c'est 100% de l'affaire, et puis d'autres, c'est bon, et by the way, ça serait bien de se poser la question d'eux. Et c'est systématiquement dans ce type de questions-là que nous, on va intervenir aussi pour challenger nos clients et leur proposer des solutions désirables, performantes, parce qu'on pense que c'est que comme ça que la RSE peut se développer aussi pour les marques.
Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, je tire un peu la ficelle. De quelle manière, selon vous, la marque a une responsabilité, justement, en termes de diffusion de l'information, de sensibilisation, de la même manière? On sait qu'à l'heure des réseaux sociaux, là, justement, la notion de marque, d'image continue d'être extrêmement importante. Et une marque forte a une responsabilité forte, je pense, en termes d'engagement, de valeur. Et c'est des choses aujourd'hui que vous ressentez vraiment chez vos clients?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense que c'est presque un changement majeur qui a opéré environ, il y a, je dirais, 10 ans, 5 ans. Avant ça, rappelez-vous, une entreprise qui prenait la parole sur ce type de sujet était systématiquement montrée du doigt, c'était forcément pas sa place, et donc elle n'avait pas voix au chapitre. Ça a considérablement changé. Il y a un essor des entreprises qui aujourd'hui prennent la parole, et c'est très bienvenu, c'est même attendu désormais par les consommateurs et la société. La chance des entreprises, finalement, dans ces problématiques et dans l'enjeu immense de transition écologique et sociétale qui est devant nous, c'est qu'à l'inverse des États, elles ont le loisir d'être plus rapides, d'être extrêmement innovantes. Et à l'inverse des ONG et des associations, elles ont la chance d'avoir des moyens. Donc, ça leur donne une place tout à fait justifiée dans les acteurs de la transition, et même, je dirais, de plus en plus, une place de leader. Et on le voit avec certaines entreprises qui font bouger les lignes de manière assez drastique.
Mm-hmm. Allons-y.
Et juste pour terminer, peut-être, selon vous, justement, vous dites que vous voyez vraiment une différence. Quelle a été la bascule ? Est-ce que vous avez observé à un moment donné un moment où vraiment il y a une bascule qui a été faite au niveau de la prise en compte de ces enjeux ?
Oui, je pense que ce sont les accords de Paris et la signature des 17 objectifs du développement durable de l'ONU, parce que du coup, tout à coup, il y a une responsabilité collective qui a été officialisée, en quelque sorte, et que partagent les États avec les entreprises.
Mm-hmm. Tanguy, encore une question ?
Oui, vous parliez d'entreprises dans différents secteurs. Le secteur du luxe, plus particulièrement, vous le voyez plutôt moteur, parce qu'effectivement, ils ont plus de moyens et des meilleures marges. Et en même temps, j'ai l'impression, montrer du doigt, parce que le luxe, jet privé, et ainsi de suite. Est-ce que vous, dans ce côté communication, vous vous dites, non, ce sont des acteurs qui ont effectivement cette casserole à tirer, qui sont peut-être les jets privés ou équivalents, mais qui ont effectivement, nous on le constate chez Metron, on a des acteurs du luxe qui s'engagent rapidement et fortement dans la démarche RSE et dans l'optimisation énergétique, la décarbonation et autres, plus que certains secteurs industriels traditionnels. Vous partagez côté com ?
Oui, je crois qu'en fait chaque entreprise, enfin chaque secteur en tout cas, a son lot de difficultés et son lot de défis à relever et une légitimité à démontrer. Et le secteur du luxe, comme les autres, a ses difficultés comme vous les décriviez, et puis il y en a d'autres. Mais je ne suis pas sûre qu'on peut dire qu'ils ont été moteurs, parce qu'aujourd'hui, même s'il s'est passé des choses dans l'univers du luxe, par exemple, le groupe Kering est très engagé, la marque Chloé vient récemment d'être certifiée B Corp, ça reste quand même un tout petit peu à la traîne par rapport à d'autres industries qui ont pris un peu les devants. Mais néanmoins, on sent une accélération phénoménale, et effectivement, comme vous disiez, ce sont aussi des marques qui ont peut-être les moyens, donc on peut espérer que ça s'accélère et que maintenant que certains ont montré l'exemple, Chanel a sorti récemment une offre notamment 100% responsable. Je parlais de Galoupet tout à l'heure avec le groupe LVMH. Voilà, Nespresso, on ne peut pas dire que c'est tout à fait du luxe, mais enfin, ce sont quand même des marques ancrées dans l'univers du premium et qui montrent la voie aux autres et qui montrent qu'une offre responsable peut être désirable. Ce n'est pas parce qu'elle est sobre qu'elle est forcément ennuyeuse ou qu'elle ne peut pas apporter du confort ou du bonheur aux gens.
Et la dernière question avec Jean-Christophe.
Oui, vous en avez pas mal parlé. Nous, on accompagne les organisations sur la certification B Corp en tant que B-leaders depuis des années. On a participé à ramener le label en France avec Utopie. À quand la certification B Corp pour vous ?
Mais écoutez, je ne peux pas dévoiler parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On sait simplement qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais j'espère que ce sera bientôt.
Voilà.
Chez Metron, on y travaille en tout cas.
Bah voilà,
on y travaille. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise énormément les outils de B Corp et que quand on a passé le BIA la première fois il y a 4 ans maintenant, on devait avoir un score comme tout le monde à peu près, autour de 40 points, ce qui était déjà pas mal. De ce que dit B Corp, c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, on est capable d'obtenir la certification. On a un score qui dépasse le seuil de 80 points. Voilà. Et puis B Corp, ce qui est génial, c'est que c'est très inspirant. Et même si on n'a pas forcément reçu la certification encore, néanmoins, c'est un squelette pour construire sa stratégie de transition qui est extraordinaire et qui est tout à fait liée à la démarche qu'on a eue avec Lucie, puisqu'elles sont toutes les deux adossées sur les objectifs du développement durable. Donc voilà, c'est des labels et des certifications qui aident à grandir. Qu'on arrive à l'obtenir rapidement ou pas, c'est chouette de démarrer ce parcours que je conseille à tous.
Voilà, merci beaucoup, messieurs. Charlotte, est-ce que vous pourriez emmener, parce que vous êtes une fan de musique, vous jouez du violoncelle, mais votre grande passion, c'est la nature, c'est notamment la montagne. Vous avez envie de vivre au cœur des montagnes, avec ou sans le violoncelle ?
Encore plus avec, je ne dérangerai personne.
Est-ce qu'il y a une bonne résonance dans les montagnes ?
Excellente.
C'est une bonne salle de concert, la montagne ?
Avec les oiseaux pour spectateurs.
Pour spectateurs et pour applaudir. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été notre invitée. Merci à Tanguy, merci à Jean-Christophe. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.